vous allez écouter Sur ma route, une émission réalisée en partenariat avec la préfecture de Vaucluse dans le cadre du plan départemental d'action de sécurité routière.
Bonjour à tous, bienvenue dans l'émission Sur ma route. Ce mois-ci, je reçois monsieur Antoine Ruiz de la société Route et Sécurité. Bonjour monsieur Ruiz.
Bonjour Bruno, bonjour aux auditeurs.
Alors, aujourd'hui, nous allons parler de l'alcool et les stupéfiants au volant. Pour commencer, tout simplement, qu'est-ce qu'un stupéfiant ?
Alors, un stupéfiant, on a plusieurs définitions possibles, mais généralement, c'est un produit psychoactif, mais qui a la particularité d'être illégal. Un produit psychoactif, pour développer, bien sûr, c'est un produit qui a une action sur le cerveau, sur le fonctionnement neural du cerveau.
D'accord. Quels sont les risques lorsqu'on est au volant ou au guidon d'une moto et qu'on a consommé des stupéfiants ou de l'alcool ?
Alors, les risques sont différents en fonction du type de produit consommé, mais globalement, on a plusieurs aspects de notre organisme qui sont touchés. Vous allez avoir un fonctionnement différent du cerveau, d'abord, et puis il peut y avoir aussi des coordinations gestuelles, musculaires, différentes. Donc, ça se situe à plusieurs niveaux.
Alors, j'ai entendu dire, et il se dit, que la concentration visuelle serait accrue par le cannabis. Est-ce que c'est vrai ?
Alors, ça me fait assez sourire. Il y a beaucoup de croyances autour des produits, que ce soit le cannabis, l'alcool ou d'autres. Ce qui est intéressant, c'est que les consommateurs eux-mêmes sont piégés par les sensations qu'ils ont quand ils sont sous l'effet du produit. Vous prenez par exemple l'alcool, on sait que c'est désinhibiteur et donc ça donne une sorte d'effet Superman. On pense avoir des capacités, des compétences au-dessus et du coup on prend des risques qu'on n'aurait pas pris à jeun. Pour le cannabis, c'est pareil. C'est-à-dire que ça n'améliore rien du tout. Déjà, pour améliorer la fonction visuelle, il faudrait que ça joue sur le nerf optique, sur la transmission électrochimique de neurone à neurone. Il faudrait, voilà, ce serait une action assez impressionnante. Et je pense que si ça avait une action sur la vision, ben je pense que certaines professions, certains métiers s'en serviraient pour améliorer leurs compétences. Notamment les tireurs d'élite, par exemple.
Oui. Et alors, un produit comme la cocaïne, par exemple, qui stimule le cerveau, ça reste néfaste.
Alors, ça augmente les échanges entre neurones, effectivement. Ça va augmenter le rythme. Et du coup, ça ouvre certaines vannes. La cocaïne va permettre, par exemple, d'accepter des risques qu'on n'aurait jamais pris si on n'avait pas l'effet du produit. Ça va exciter. C'est vraiment très excitant. Et du coup, on va se retrouver avec des accidents qu'on n'aurait pas eu sans ce produit-là. Avec une forte prise de risque, avec des chocs très importants et tout. Voilà. C'est le côté excitant de la cocaïne qui dope les réactions du conducteur.
Et alors, combien de temps reste la substance dans le sang
Alors ça c'est une vaste question parce que d'une substance à l'autre, vous n'avez pas du tout les mêmes durées, déjà parce que la diffusion des produits ne se fait pas au même endroit. Je vais vous prendre deux exemples. Vous prenez l'alcool. L'alcool est miscible dans l'eau. Vous le savez bien, quand vous faites un pastis, effectivement, l'alcool et l'eau se mélangent très très bien. Mais donc pas dans l'huile, pas dans le gras. Dans notre corps, lorsque nous avons des masses adipeuses plus ou moins importantes, ben l'alcool ne va pas s'y réfugier. Alors que le cannabis, oui. Le cannabis va s'accrocher aux masses adipeuses de notre corps, y compris à la masse grise de notre cerveau, la matière grise de notre cerveau, et donc va pouvoir rester en stand-by pendant un certain temps. Grosso modo, pour l'alcool, l'éthanol, vous l'éliminez en quelques heures, voire en un jour ou deux s'il y a eu de très très gros pics d'alcoolémie. Globalement, le corps se débarrasse de 0,10 à 0,15 grammes par litre de sang et par heure. Donc à vous, après, de poser l'opération, la règle de 3. Mais voilà, pour quelqu'un qui consommerait, on va prendre des doses barres pour simplifier, mais si vous avez consommé 3 ou 4 doses barres, ça veut dire que vous allez compter entre 4 et 6 heures pour éliminer ces 3 à 4 doses barres. Pour le cannabis, c'est plus compliqué. Le cannabis, vous allez l'élimination déjà ne se fait pas de la même manière. Le cannabis va être éliminé par les selles et par les urines. Et il va avoir une durée d'incrustation dans l'organisme qui est différente. Donc si, par exemple, vous allez chercher le cannabis dans le sang, pour un fumeur occasionnel, le THC, donc la molécule active, ne sera restée que quelques heures. Quand je dis quelques heures, en fonction de la concentration, ça peut être 5, 10, 15 heures. Pour les fumeurs occasionnels, c'est plus. Pardon, pour les fumeurs réguliers, autant pour moi, c'est plus. Effectivement, quelqu'un qui entretient son stockage, sa dose quotidienne de cannabis, bah forcément, ça va durer plus longtemps. Ça veut dire que pour se retrouver avec zéro cannabis dans le sang, bah, ça peut prendre de 12 à 15 heures pour un fumeur occasionnel, et parfois 2 jours, voire 3, pour un fumeur régulier. Le problème étant que si vous vous mettez à chercher ailleurs que dans le sang le produit, vous allez le trouver plus longtemps. Dans le milieu du sport, par exemple, on va chercher les substances dans les urines ou dans les cheveux, parce que dans les urines, ça peut rester plusieurs semaines, et dans les cheveux, ça va rester la durée de vie du cheveu. Donc, en fonction de la façon de faire le contrôle, alors pour la route, c'est dans le sang et dans la salive qu'on fait la recherche, donc c'est la durée de vie la plus courte. Mais pour d'autres disciplines, je pense au sport, mais il peut y avoir aussi dans certains milieux où le travail est à risque et il y a des niveaux de sécurité élevés. Voilà, à ce moment-là, on va chercher dans les urines et les cheveux, et là, je vous garantis que ça reste beaucoup plus longtemps. Pour les autres produits psychoactifs, la cocaïne, etc., l'élimination est nettement plus rapide. Vous avez même certains produits, le lendemain, on ne voit même pas ce qui a été consommé. Vous savez, le GHB ou des produits comme ça, effectivement, ça s'élimine très très vite. Donc le cannabis fait partie des produits qui restent le plus longtemps dans le corps, en tout cas qui laissent des traces dans le corps.
Alors justement, puisqu'on en vient, quel est le taux d'alcool maximum autorisé ?
Alors, vous avez deux réponses possibles. Soit vous êtes un conducteur de transport en commun ou un apprenti conducteur, auquel cas vous avez un taux de 0,1 mg par litre d'air expiré, ce qui fait 0,2 g par litre de sang. Soit vous êtes un conducteur lambda, vous êtes sorti de la période probatoire et vous ne conduisez pas un transport en commun, auquel cas vous avez un taux d'alcoolémie à partir duquel vous êtes verbalisable à 0,25 mg par litre d'air ou 0,50 g par litre de sang.
Qui correspond quasiment à un verre ou deux.
Alors ça dépend qui le sert.
Oui, en dose barre, je m'entends.
Si on prend les doses légales, que quasiment personne n'utilise, sauf dans la restauration, effectivement, ça va très vite. Si je prends le 0,1, alors après, ça dépend aussi de la corpulence. Vous prenez une personne qui est sportive, qui est grande et sportive, avec une musculature importante. J'insiste sur la musculature parce que le muscle, c'est beaucoup d'eau et peu de gras. Donc, il y a de la place pour diluer l'alcool. Vous prenez une personne un peu comme moi avec un gabarit plus petit, mais par exemple en surpoids, à ce moment-là, bah, vous aurez une masse adipeuse plus importante et donc moins de place pour que l'alcool se diffuse. À ce moment-là, à consommation égale, on pourrait avoir quasiment des taux du simple au double.
Ah oui.
Ouais. Et donc c'est pour ça qu'il n'y a pas vraiment d'égalité face à l'alcool. Il n'y a pas non plus d'égalité homme-femme d'ailleurs, puisque la physiologie féminine fait que le taux de concentration est toujours plus élevé à consommation égale. C'est compliqué quand même. Il n'existe aucune formule de calcul qui permette sur le papier de savoir exactement quel est le taux d'alcoolémie d'une personne par rapport à sa consommation. Il faudrait connaître son poids, sa taille, son IMC, enfin, il y a beaucoup trop de paramètres. Il faudrait aussi connaître le temps d'absorption de tout l'alcool. C'est très compliqué. C'est pour ça qu'on est obligé de prendre des mesures. Éthylomètre, éthylotest ou prise de sang, il n'y a que ça pour déterminer réellement les taux.
D'accord. Et alors justement, quand on se fait prendre, qu'est-ce qu'on risque comme sanction pénale ?
Alors, ça va dépendre du taux auquel vous êtes. Si je commence pour la sanction la plus légère, c'est l'alcoolémie qu'on appelle contraventionnelle. C'est-à-dire quand on est au-dessus de 0,1 mg pour les jeunes conducteurs ou les chauffeurs de transport en commun, au-dessus de 0,25 pour un conducteur lambda, mais qu'on est en dessous du niveau délictuel. Et je vous dirai après quel est le taux délictuel. À ce moment-là, bah, c'est une contravention de 4e classe, donc 135 euros minoré à 90 si vous payez rapidement. Et c'est un retrait de 6 points. Il peut y avoir une suspension du permis de conduire. Il peut y avoir d'autres sanctions en parallèle. Si vous êtes au-dessus de 0,5 g par litre de sang, c'est-à-dire 0,25 g par litre d'air expiré, vous êtes donc en contravention. Si vous dépassez le 0,80 g par litre de sang, 0,40 mg par litre d'air à ce moment-là, et là c'est le même taux pour tout le monde, vous êtes en délit. Et le délit fait que vous basculez dans le pénal. Le pénal, donc c'est le tribunal. Les juges ont la possibilité de mettre jusqu'à 4 500 euros d'amende, 2 ans d'interdiction de conduire et même 2 ans de prison, et pas mal de peines complémentaires, comme des travaux d'intérêt général, des jours amende. Enfin voilà, vous avez toute une rafale de peines complémentaires possibles. Lorsqu'il y a récidive, c'est pire, puisqu'en cas de récidive légale, c'est pas la suspension mais l'annulation du permis de conduire qui est prévue. Et dans tous les cas, quel que soit le taux d'alcoolémie, il y a un retrait de 6 points du permis de conduire.
6 points.
Oui.
Et pour les jeunes conducteurs, c'est encore moins.
Ils ont un taux différent à 0,1, donc ça veut dire que les 6 points peuvent tomber beaucoup plus tôt. Mais si vous êtes jeune conducteur dans votre première année de probatoire, vous n'avez que 6 points.
Oui.
Donc si vous faites 6-6, ça fait rapidement un 0.
D'accord.
Donc ça veut dire très clairement que pour les jeunes permis, c'est une tolérance 0 en termes de consommation et de conduite. D'ailleurs, ils ont bien compris l'idée, hein, puisque aujourd'hui, vous avez une très grande majorité de jeunes, des moins de 25-30 ans, qui dissocient complètement l'alcool et la conduite. C'est une toute petite minorité qui continue à jouer et à prendre des risques. Aujourd'hui, la plupart font la fête, ils boivent vraiment, et derrière, ne conduisent pas.
Il y a
se font ramener, il y a toujours un SAM.
Les capitaines de soirée, exactement. Ça existe toujours.
Voilà, et puis on voit aussi le phénomène de maisons qui sont louées pour un week-end ou qui sont bloquées pour un week-end.
Et ils font la fête sur place, voilà. Comme ça il n'y a pas de transport.
Ils restent sur place, ils dorment, le lendemain ils nettoient la maison, etc. Et en fin de journée du dimanche, les parents viennent les chercher. Voilà, on voit même, moi j'ai constaté ça chez certains groupes de jeunes étudiants. On voit même que certains s'équipent d'éthylotests électroniques, histoire de pouvoir vérifier que les conducteurs qui conduisent le lendemain sont dans l'état de le faire. Donc voilà, il y a une sorte de culture de la prévention qui petit à petit se fait de génération en génération.
Il y a certaines boîtes de nuit, je crois que j'ai entendu, qui distribuaient aussi des éthylotests.
Oui, malheureusement, c'est des éthylotests chimiques. Donc, alors, s'ils sont bien stockés, si leur date de péremption n'est pas atteinte, ça va,
ah oui.
L'éthylotage chimique est intéressant. Mais c'est un matériel que je ne conseille pas parce que trop aléatoire. Vous oubliez votre éthylotage chimique dans la boîte à gants de votre voiture, il fait plus 40, c'est mort.
Ah oui.
Le réactif ne tournera plus, vous le laissez par moins 10 également, le réactif sera mort. Donc, un peu délicat à stocker. Alors que les appareils électroniques, eux, ils tiennent dans la durée, ils craignent pas les gros écarts de chaleur et de froid.
Et ils sont fiables.
Donc ça va, ils sont fiables. Et puis vous pouvez les réétalonner. Voilà, moi j'en ai possédé un pendant des années et effectivement, tous les deux ans, je faisais réétalonner par un laboratoire et il était reparti pour quelques centaines d'usages.
D'accord. On va faire une petite pause musicale et puis on se retrouve juste après.
On n'a pas les tours de New York, on n'a pas de lumière de jour. 6 mois dans l'année, on n'a pas Beaubourg ni la Seine, on n'est pas la ville de l'amour. Mais bon, vous voyez.
Alors, dans la première partie de l'émission, là, juste avant la musique, on parlait de l'éthylotest et il y a eu une réglementation qui exigeait qu'on ait tous un éthylotest dans notre voiture. Mm-hmm. Qu'est-ce qu'il en est de cette loi exactement ?
Alors, c'est un décret de 2012, donc ça fait déjà 10 ans qu'on l'a dans les tuyaux. C'était quelque chose d'un petit peu bricolé à la va-vite, puisqu'il y avait eu une augmentation de mortalité sur la fin de l'année 2011 et le début de l'année 2012. Donc, il fallait que l'État, à ce moment-là, sorte quelques mesures et... Voilà, à ce moment-là, on n'a pas demandé leur avis à des experts. Pourtant, il y a des comités d'experts sécurité routière qui peuvent intervenir pour l'État. Et voilà, il y a eu un grand coup de com'. Je vous rappelle qu'à l'époque, il y avait une élection présidentielle dans les tuyaux. Donc, il fallait vite réagir. Voilà, ce n'était pas une très bonne idée de proposer des éthylotests chimiques pour tous les conducteurs. Surtout, l'idée, ça aurait pu être intéressant si on les gardait sur soi, si on les gardait dans une sacoche, dans une poche de blouson, mais surtout pas dans la boîte à gants du véhicule. Et d'ailleurs, c'est ce que disait le texte du décret, hein. Ça n'a jamais dit que c'était dans la voiture, il fallait l'avoir sur soi en cas de contrôle. Mais bon, je pense que là, les médias n'ont pas fait une bonne pédagogie, ils n'ont pas transmis correctement ce que disait le texte du décret. C'est vrai qu'on ne pouvait pas non plus pousser les gens à prendre un appareil électronique. Voilà, les bons appareils, ceux qui ont la norme NF ou CE, ils coûtent quand même une centaine d'euros plus. Voilà, il faudrait en avoir un vrai usage. Et puis, l'autre problématique que ça posait aussi, c'est que l'alcoolémie, ça touche vraiment pas la majorité des conducteurs. C'est une petite minorité, en fait, qui est concernée. Même si on trouve statistiquement pas mal d'alcool dans les accidents graves ou mortels, quand on fait les contrôles systématiques, là, imaginez qu'on place un barrage sur une départementale à proximité, que pendant 24 heures, on contrôle tous les conducteurs qui passent.
Oula.
Bah, vous auriez un 3-4% de conducteurs alcoolisés, pas plus.
Ah non.
Ouais, sauf qu'après, ils sont 10 fois plus nombreux dans les stats d'accidentalité corporelle ou mortelle. Donc, mais c'est souvent le cas, hein, dans pas mal d'aspects statistiques. C'est une petite partie de la population, mais qu'on va retrouver, malheureusement, fréquemment impliquée dans les accidents.
D'accord.
Et petit avantage quand même que ça a eu de mettre en place ces éthylotests. Il ne faut pas jeter tout à la corbeille. Ça a quand même permis de remettre la question de l'alcoolémie au volant sur le devant de la scène, quoi. Donc on a reparlé de l'alcoolémie. Certaines personnes pensaient à tort que c'était une problématique du passé, alors qu'en fait non, c'est une problématique qui est tout à fait d'actualité, ça reste encore aujourd'hui. Ce qui est dommage, c'est qu'on n'ait pas profité de l'occasion pour mettre un petit peu à plat qui était réellement concerné par les problèmes d'alcoolémie au volant. Et contrairement à beaucoup d'idées reçues, c'est pas tellement les jeunes qui sont le plus touchés par l'alcoolémie au volant, c'est plutôt une tranche d'âge entre 35 et 55 ans, voilà, qu'on retrouve donc très fréquemment impliqués dans les accidents liés à l'alcool, et accidents corporels, souvent accidents mortels, et donc une responsabilité pénale, forcément ça va avec. Donc voilà, c'est vrai que cette mesure-là permettait de remettre le sujet sur le tapis, mais c'est à peu près le seul avantage que ça a eu.
Alors, y a-t-il des moyens de faire baisser son taux d'alcoolémie ?
Alors, il y a pas mal de moyens qui prétendument permettent de le faire.
Oui.
Voilà, notamment certains bonbons qui, à une époque, avaient même été attaqués en justice pour publicité mensongère. Et puis régulièrement, sur le net, on retrouve des produits miracles à base d'artichaut, parce qu'on sait que l'artichaut est bon pour le foie.
Ah oui.
Et donc, ils seraient en mesure de. Sauf que, on sait pertinemment que si ça existait vraiment, si c'était vraiment possible, les premiers services à se doter de ce genre de produits, ce seraient les urgences. Parce qu'en fait, il faut juste savoir que lorsqu'une personne grièvement blessée arrive dans un service d'urgence, si elle est alcoolisée, on ne peut pas l'anesthésier. Il y a un risque trop important de mélange alcool-anesthésie qui fait que ça peut tuer la personne. Donc si on voulait rapidement faire baisser le taux d'alcoolémie avec un produit, il faudrait leur donner. Ensuite, rapidement, on les opère. Donc vous voyez ce que je veux dire ?
Oui, oui.
Et ça, les hôpitaux, ils guettent le jour où on a ce produit miracle. En fait, ce qu'il faudrait, c'est un deuxième foie. Parce que le problème, c'est que l'élimination de l'alcool se fait que par le foie. C'est le seul organe qui élimine, alors que les autres produits, les drogues illégales notamment, ça peut partir par les selles, les urines, etc. Là, non. C'est le foie qui, à 98%, dégrade l'éthanol. Et le foie, il a son petit rythme. C'est-à-dire qu'il peut juste éliminer une certaine dose à la minute ou à l'heure. Et ça va s'arrêter à ça. C'est pour ça que si on avait un deuxième foie monté en dérivation, ça permettrait peut-être de doubler l'élimination. Non, je plaisante, ce serait très moche d'avoir un deuxième foie.
Oui, bien sûr. Et alors, les femmes sont-elles plus ou moins tolérantes face aux produits stupéfiants par rapport aux hommes ?
Alors, c'est surtout par rapport à l'alcool qu'il y a une différence, en fait. Et c'est pas tellement une histoire de tolérante ou pas, parce que vous savez que ce qu'on appelle la tolérance à l'alcool, c'est plus l'habituation. C'est est-ce que le système nerveux, est-ce que le cerveau a l'habitude de recevoir la molécule fréquemment ou pas ? Donc vous avez des personnes qui sont entre guillemets tolérantes, elles reçoivent souvent de l'alcool, donc du coup ben, elles vous donnent l'impression que finalement ça leur fait pas grand chose, ce qui est faux. Si on faisait des tests physiques à ce moment-là, on s'apercevrait que ça fait le même effet à tout le monde. Non, c'est pas tellement sur la tolérance, c'est plus sur les taux d'alcoolémie et les temps d'élimination que là il va y avoir un gros écart. Déjà parce qu'on ne part pas des mêmes taux de masse adipeuse. Un corps féminin étant prévu pour la maternité, la proportion entre l'eau et les masses adipeuses n'est pas la même que sur un corps masculin. Donc déjà, vous avez ça. Et puis il y a la corpulence aussi. Si vous avez une femme de 45-50 kg et un homme de 80-90 kg, bah déjà, allez diluer de l'alcool dans les mêmes masses corporelles, vous verrez que ça, il n'y a pas photo. Donc à consommation égale, une femme aura de toute façon un taux d'alcoolémie plus élevé qu'un homme. Ce qui veut dire que son élimination sera d'autant plus longue.
Plus longue.
Voilà. Et elle part de plus haut et forcément ce sera plus long. Là où vous pouvez avoir des différences en revanche, ce sont des différences ethniques. On sait que certains gènes ethniques, comme les Asiatiques par exemple ou les Amérindiens, n'ont pas la même métabolisation de l'alcool. Et à ce moment-là, ça peut avoir des effets décuplés. Voilà. C'est d'ailleurs un petit peu comme ça que si vous avez regardé les westerns dans votre jeunesse. Vous savez que les visages pâles donnaient de l'eau de feu ou la Vendée aux Indiens qui devenaient très rapidement alcoolodépendants parce qu'ils n'arrivaient pas à correctement métaboliser cette molécule. Voilà, et puis, donc il y a quand même pas mal de différences, mais plutôt ethniques, qu'entre hommes et femmes par rapport à l'alcool. Et pour les autres produits, ben, on n'a pas remarqué de différence fondamentale par rapport au genre ou au sexe. Et c'est beaucoup plus par rapport à l'habitude d'en consommer, la dose cumulée ou pas. C'est-à-dire si je consomme très ponctuellement, très rarement tel ou tel produit, bah ça ne sera pas la même chose que si je le consomme de manière récurrente.
Parce que les jeunes, ils ont une nouvelle façon de consommer maintenant. Il y a le binge drinking, c'est boire très vite pour être bourré très vite.
Alors malheureusement, c'est plus trop nouveau, mais c'est encore très pratiqué. Ouais, c'est ça. C'est boire très très vite pour que l'alcool passe très rapidement dans le sang et donc du sang au cerveau pour avoir un effet feu d'artifice. Vous avez pire. Vous avez certains qui s'envoient les shots de vodka ou d'alcool très fort directement dans l'œil pour que par le nerf optique, ça monte rapidement au cerveau. Ah oui, mais quand on veut se faire du mal, il y a moyen de faire très très vite.
Ah mais j'avais jamais entendu parler de ça.
Oh si, vous saviez. Bon, j'hésite parfois à en parler un petit peu sur les ondes pour pas donner de mauvaises idées aux plus jeunes.
Oui, bien sûr.
Mais je pense que de toute façon, sur le net, tout ça, on le sait déjà.
Oui, bien sûr. Alors, on va revenir aux stupéfiants. Quelles sont les alertes à avoir lorsqu'on a un ado susceptible d'avoir consommé quels sont les signes à repérer?
Alors, que ce soit chez un ado comme chez un adulte, les signes sont à peu près les mêmes. Mais c'est vrai que chez les ados, ils sont souvent exacerbés. Un des premiers signes de consommation, ça va être l'isolement. Souvent, on a un changement, une coupure de ses relations habituelles, un changement de comportement par rapport à ça, et accompagné d'un changement de comportement alimentaire. Voilà, si vous prenez le cannabis, par exemple, c'est assez coupe-faim. Donc, on n'a plus la dalle de l'adolescent. Vous savez, comme moi, qu'à 15 ans, ça mange deux fois plus que ça devrait,
oui.
Parfois. Donc, vous avez une baisse de l'appétit, vous avez un isolement qui commence à se repérer. Et puis, vous allez avoir une baisse de motivation dans pas mal de domaines. Une baisse des résultats scolaires. Si l'adolescent pratique un sport, il va être moins fréquent, ce sport-là, voire il va carrément l'arrêter. Voilà, donc il y a pas mal de choses comme ça. Si on veut être aussi plus subtil, on peut chercher les réactions. Est-ce qu'il reste réactif intellectuellement parlant? Quand on lui parle, est-ce que ça percute ou au contraire, est-ce que ça rame un petit peu? Le principe du cannabis, comme beaucoup d'autres produits, hein, c'est d'agir sur le système nerveux. Si on en consomme, c'est pour ça. Et quel que soit le produit, je pourrais prendre l'exemple du tabac, qui n'est pas psychoactif, mais qui a un effet quand même sur le corps. Lorsqu'on consomme ce produit, c'est qu'on en atteint un effet. Le cannabis, par exemple, il a tendance à relaxer, à calmer, mais de manière artificielle, de manière chimique. Autrement dit, il va ralentir le fonctionnement neuronal normal. Il va ralentir la transmission entre les neurones. Il va rendre aussi complexe le multitâche. Quand quelqu'un qui est sous cannabis aura du mal, par exemple, à enchaîner deux tâches compliquées l'une derrière l'autre. D'ailleurs, il y a beaucoup d'accidents de la route sous cannabis qui ont mis ça en évidence. C'est-à-dire que le conducteur vient de se sortir d'une situation un petit peu complexe. Il a plutôt bien géré. Derrière, il y a une autre situation complexe à gérer. Il ne la gère pas du tout. Et là, il fait une erreur tactique qu'il n'aurait jamais faite s'il avait été agent.
D'accord.
Donc voilà, les signes, ça va être difficulté à se concentrer, difficulté sur la double tâche, perte de motivation, perte d'envie, perte d'appétit, isolement. Voilà, ça c'est assez classique. Par rapport à l'alcool, c'est différent. Si on a un ado qui commence à être alcoolodépendant, déjà ça va se sentir,
oui.
Parce que c'est compliqué. Il y a quand même un petit 1% qui sort par la peau, par les pores de la peau, donc il y aura une odeur. Il y a souvent de l'excitation, surtout quand on arrive, on commence à être en manque de son produit,
oui.
De l'excitation, d'énervement, de l'impatience, et puis après des phases d'indolence, des phases de grande fatigue. Ou... Voilà. Donc il y a des montagnes russes. Et puis surtout, il va y avoir la baisse du niveau de toutes les bouteilles dans le bar de la famille, quoi.
Eh oui.
Voilà, ça va vite se repérer.
Et alors, comment faire pour faire arrêter une drogue ou un alcool à quelqu'un qui consomme de trop ?
Alors, non. On a une grande difficulté par rapport à ça, mais c'est une difficulté qui est sociétale. Au-delà de la consommation, il faudrait se questionner sur pourquoi les gens consomment.
Oui.
Et c'est vrai que le pourquoi de la consommation, c'est souvent dû à notre modèle de société, notre façon de vivre, de penser, de communiquer, enfin, un tas de choses qui ne conviennent pas, qui peut générer des angoisses, qui peut générer aussi une perte de sens chez les jeunes. On peut effectivement s'aider par des structures. Il y a beaucoup d'associations aujourd'hui et des structures publiques qui accompagnent les gens qui ont fait le choix de se sevrer d'un produit. Je dis bien qu'ils ont fait le choix. Parce que si vous ne voulez pas arrêter un produit, personne ne pourra
rien faire pour nous.
Exactement. Il y a un minimum de volonté à avoir. Comme vous avez Tabac Info Service par rapport au tabac, vous avez aussi des associations comme l'ANPA, la NPA, l'Association Nationale de Prévention pour les Addictions et l'Alcool. Vous avez, j'essaie de me rappeler, il y a une association avec SOS dans le titre. Mais je trouve que sur Internet, vous avez de très bons résultats. J'avais fait le test il y a quelques années, j'avais regardé rapidement... En tapant addictologie, voir ce qui ressortait. Effectivement, on trouvait très rapidement les structures qui aident les personnes qui en ont besoin. Et puis, d'un point de vue, sans passer forcément par une association ou par une structure, vous avez beaucoup de psychologues aujourd'hui qui sont aussi addictologues, donc qui accompagnent des personnes dans des thérapies de sevrage. Et aujourd'hui, vous avez quand même pas mal de thérapies différentes. Vous avez aussi les TCC, les thérapies cognitivo-comportementales, qui permettent d'accompagner les sevrages. Donc voilà, une personne qui veut être aidée, qui veut être accompagnée, n'a pas trop de difficultés à trouver aujourd'hui. Il suffirait même de demander à son médecin généraliste, son médecin traitant, une infirmière, un personnel de santé. Normalement, l'orientation est assez facile. C'est pas le plus difficile de trouver le moyen d'arrêter le produit. Le plus difficile, c'est de trouver la volonté de le faire.
La volonté de le faire, oui.
C'est là.
On va faire une petite pause musicale encore, et puis on se retrouvera juste après.
Tout là-bas, tu voudrais y aller. Tout là-bas, il part. Car ici, le temps presse. Car ici, tu n'as même plus d'adresse. Tout là-bas, pas de canon. Tout là-bas, le temps file au gré des saisons. Car ici, le ciel menace. Car ici, tu n'as même plus ta place. Si tu pars ce soir, je croiserai les doigts pour toi. Si tu pars ce soir, on se croisera peut-être ici ou là. Y'a des voix là-bas et t'entends des mots. Y'a des voix là-bas qui ne veulent pas trop. Mais ici, tu peux pas rester. Car ici, notre y sont passés. Y'a des voix, le départ est proche. Y'a des voix et l'encre se décroche. Et ici, tant de souvenirs. Juste ici, que tu laisses mourir. Si tu pars ce soir, je croiserai les doigts pour toi. Si tu pars ce soir, on se croisera peut-être ici ou là. Ici ou là.
jamais.
Jamais, jamais.
Tout là-bas, c'est dans les JT.
J'étais, j'étais.
À présent que le bateau coule.
Coulé, coulé.
Tu ne verras jamais ni les rues ni la foule.
Et t'es parti hier soir. Même si j'ai croisé les doigts pour toi. T'es parti hier soir. On aurait pu se croiser peut-être. Ici ou là.
Alors on arrive à la troisième partie de l'émission. On avait juste, on a cherché pendant la musique, les associations qui pouvaient aider pour aider les dépendants.
Oui, c'est vrai qu'il y avait SOS Addiction, c'est à cela que j'avais pensé. Puis vous avez aussi Avenir Santé,
voilà.
Qui a une antenne en PACA, donc c'est pas mal.
Alors, le CBD, qui est un extrait du cannabis, pouvez-vous nous préciser ce que c'est et est-ce que c'est dangereux ?
Alors, le CBD, c'est le cannabidiol. En fait, c'est un extrait qui est censé ne pas contenir de THC, c'est-à-dire de tétrahydrocannabinol, sachant que ça, c'est la molécule psychoactive. Donc, le CBD, s'il est vraiment pur, n'a aucun effet néfaste. Et je dis s'il est vraiment pur parce que le problème, c'est qu'on a trouvé des CBD qui avaient quand même encore une présence de THC marginale, mais suffisante pour être verbalisée si on était au volant, par exemple.
Ah oui.
Donc voilà, il faudrait vraiment que ce soit du CBD pur. Le problème, c'est qu'on n'a pas, pour l'instant, il y a peut-être pas de label ou d'organisme de contrôle de la pureté des produits. Donc si c'est vraiment du CBD, du pur, on n'a aucun problème pour la santé. C'est même recommandé dans pas mal d'affections. L'inconvénient du THC, donc la molécule active, c'est qu'elle, elle joue vraiment sur le cerveau. Elle va déclencher des choses sur le cerveau. Elle peut présenter des problématiques très diverses. Là, c'est vrai que les gens qui proposent ces produits-là ne vont pas faire une contre-publicité, mais il y a un risque, par exemple, très peu connu, qui est, Dieu merci, est marginal, mais quand même qui existe. Je crois que les stats disaient que c'est à peu près pour une personne sur 10 000. La consommation d'un produit psychoactif, n'importe lequel, mais y compris le cannabis, peut déclencher un état psychotique chez une personne qui n'avait jamais présenté de troubles psychotiques de sa vie. Voilà, on peut avoir une psychose spontanée comme ça qui arrive, simplement parce que la molécule chimique va ouvrir des vannes qui était toujours resté fermé. Voilà. L'expression qu'emploie le jeune, par exemple, c'est rester chez père, pour percher.
Oui.
Voilà. Et dans les témoignages que moi j'ai eus, dans pas mal d'actions que j'ai faites en collège, en lycée et en faculté, j'ai eu pas mal de témoignages de jeunes qui me disaient « Ouais, moi j'ai un copain, effectivement, un jour il a tiré de latte, il est resté chez père, et là maintenant il est en hôpital. »
Avec du cannabis.
Avec du cannabis, oui. Oui, mais ça reste une molécule psychoactive, donc ça agit quand même sur les neurones. Voilà, alors c'est très marginal comme risque, hein, mais... Voilà, chez des personnes qui seraient issues de familles qui ont eu déjà des antécédents de psychose,
oui,
ou de pathologies associées, il faudrait recommander de ne jamais consommer cette molécule. Jamais. Voilà. D'ailleurs, les médecins font attention aussi à ne pas prescrire certains produits à base de molécules très, très actives pour des personnes qui auraient des antécédents.
Oui.
Voilà, donc, voilà, c'est un des risques multiples que le cannabis peut avoir. Vous avez aussi un effet de relargage, on n'en parle jamais, l'effet du relargage. C'est-à-dire, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le THC, donc la molécule active du cannabis, va s'accrocher à des cellules adipeuses, des cellules grasses du corps, notamment le cerveau, matière grise. Et vous pouvez très bien avoir des molécules actives en sommeil. Elles sont dans votre cerveau, elles attendent tranquillement 2, 3, 4 semaines, et un jour, vous avez une forte émotion, vous avez un stress intense, vous avez un événement qui fait que ces molécules vont être relarguées. Et ça peut se passer au mauvais moment, au pire moment, en fait.
Ah oui.
Voilà. Moi, j'avais eu le témoignage comme ça. Ça s'était passé chez les pompiers il y a pas mal d'années en arrière, une dizaine d'années, où c'était au sommet de la Grande Chelle que le sapeur a eu d'un seul coup son relargage parce qu'il était en stress. Et en fait, il avait consommé 3 semaines avant, il était en vacances, il avait consommé pendant ses vacances et c'était tout. Mais le médecin qui l'a consulté derrière a dit « Oui, effectivement, ça, c'est un relargage typique. »
Ah, je savais pas que ça pouvait exister avec le cannabis.
Bah, à part les médecins, les personnels soignants, etc., ouais, les addictologues, il n'y a pas grand monde qui le sait. Et je vous laisse imaginer que ce n'est pas les vendeurs du produit qui vont vous faire cette pub.
Forcément, oui. Ouais.
Voilà, donc ça, c'est une information à diffuser quand même entre les risques psychotiques et le relargage. Voilà, ça fait quand même de bonnes raisons d'être prudent avec le produit.
Parce que le relargage, c'est connu pour les extasies ou pour les acides, le LSD. Mmh. C'est plus courant, on va dire.
Oui.
Mais pour le cannabis, c'est une information que je ne connaissais pas.
Bah, ça peut faire un peu de mal au marché, quand même.
Oui, 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 il faudrait. Alors, on va revenir à l'alcoolémie cette fois-ci. Mmh. Et j'ai une question sur les auto-écoles. Est-ce qu'on fait passer des tests de simulation d'alcoolémie?
Alors, je vois qu'effectivement, de plus en plus d'écoles de conduite se dotent à la fois de simulateurs et de lunettes d'alcoolémie. Alors, pour nos auditeurs qui ne connaissent pas les lunettes d'alcoolémie, ce sont des lunettes qui permettent de reconstituer, là tout de suite, la vision qu'on aurait si on était à 0,5 g, 0,8 g ou 1,2 g. Il y a plusieurs taux et des lunettes avec des taux différents. Donc ça permet aux personnes de constater immédiatement ce que ça pourrait faire sur toute la durée d'assimilation de l'alcool. Et donc derrière, on peut effectivement les mettre au volant d'un simulateur, voire d'une voiture sur un lieu fermé, bien sûr avec toujours un enseignant en double commande. Ça, c'est la règle de sécurité obligatoire. Alors certaines écoles de conduite le font. Maintenant, d'un point de vue pédagogique, c'est assez limité comme effet. Ça n'a pas des vertus extraordinaires, surtout si derrière, si c'est pas accompagné d'une séance en salle où il y a un petit groupe qui réfléchit,
de débattre un peu sur le sujet.
Voilà, un débat qui déboucherait derrière sur des décisions fortes, comme par exemple de ne plus associer l'alcool à la conduite. Voilà, le gadget en soi, ça fera pas le job de prévention. Il faudra derrière que ce soit suivi par quelque chose. Mais c'est vraiment une minorité d'écoles de conduite qui font ça. Vous le verrez plus souvent sur des stands de fêtes foraines, de foires, de choses comme ça, où des ateliers de prévention sont de plus en plus présents aujourd'hui, prévention santé ou prévention routière. Là, je me rappelle la dernière fois, c'était un salon automobile qu'il y avait sur Avignon. Effectivement, la préfecture avait un stand. Il y avait les lunettes d'alcoolémie avec un petit parcours pour que les gens puissent à pied éviter quelques obstacles et constater l'effet de ces lunettes d'alcoolémie. Donc ça se fait de plus en plus. Certaines associations le proposent aussi, mais en se déplaçant en entreprise, par exemple.
Oui, avec j'ai vu des fois ils font un accident avec un scooter ou il y a une voiture tonneau, je crois.
Voilà. Ça, effectivement, ce sont des ateliers qu'on a vus fréquemment sur ce qu'on appelle les campus collèges.
Oui, c'est ça.
Donc, ces campus qui... Et donc, parfois, vous avez aussi un atelier lunettes d'alcoolémie en même temps pour que les jeunes voient ce que ça pourrait donner.
Alors, on a beaucoup parlé du cannabis au niveau des drogues, mais ce n'est pas la seule drogue qui est consommée au volant. Il y a aussi la cocaïne, les extasies. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur les effets indésirables?
Alors, c'est vrai qu'on voit, on a une augmentation des produits en général, de tout type de produits, des drogues chimiques ou pas. Alors, le cannabis est devenu le deuxième produit le plus consommé après l'éthanol. Et ça commence on commence à repérer le cannabis dans beaucoup d'accidents graves ou mortels, et parfois tout seul, alors qu'à une époque c'était mélangé avec l'alcool. Là on arrive à avoir des cannabis tout seul et accidents mortels à la clé. Ce qui était assez étonnant au départ, parce que la consommation de cannabis avait tendance à une époque à plutôt calmer un petit peu les conducteurs. Sauf qu'aujourd'hui, les produits d'aujourd'hui, c'est plus ceux qu'on avait il y a 30 ou 40 ans en arrière.
Oui.
On a des taux de concentration en THC qui sont beaucoup plus élevés,
oui.
Et parfois c'est coupé avec d'autres produits, dont la cocaïne. Et alors du coup, la cocaïne, effet excitant, prise de risque maximale. Sous cocaïne, vous avez des conducteurs qui peuvent être tout à fait raisonnables d'habitude, qui vont se mettre à doubler dans des virages, ne plus respecter les lignes continues, griller des feux rouges volontairement et glisser des stops.
Ouais. Alors,
certains n'ont pas besoin de cocaïne pour glisser les stops. Mais voilà, donc on va avoir des comportements déviants. Et pour ce qui est l'extasie, alors ça génère un optimisme au-delà de toute mesure. Tout le monde est gentil sur la route et du coup... C'est un grand laxisme dans le comportement, et c'est du tout et n'importe quoi. Vous savez que par rapport à tous ces produits, il y a quand même une chose qu'il faudrait interroger. C'est qu'est-ce qui fait qu'on n'est pas capable aujourd'hui de dissocier la conduite de la consommation de produits, qu'ils soient légaux ou pas légaux. Parce que si vous prenez certains médicaments qui sont prescrits habituellement pour le rhume, la grippe, etc., on va avoir les mêmes problématiques. Vous savez, quand sur une boîte de médicaments, vous avez un pictogramme rouge, ça veut dire qu'il ne faut pas conduire. On ne peut pas prendre ça et conduire derrière. Ça fera le même effet que si on était shooté. D'ailleurs, on est shooté dans ce cas-là. La problématique, elle est vraiment socioculturelle. C'est-à-dire qu'on a l'habitude, depuis plusieurs générations, depuis les toutes premières automobiles et les premiers vélos, on a l'habitude de se déplacer quel que soit le produit qu'on ait consommé.
Oui.
On n'arrive pas à renoncer à son déplacement ou parfois on n'arrive pas à modifier le mode de déplacement. Ce qu'il faut réussir à faire, c'est réussir à dissocier les produits et la conduite. Ce qui fait que du coup, on n'est plus dans le jugement moral ou pas. C'est, on consomme le produit qu'on a envie de consommer, c'est pas forcément un problème si c'est sous contrôle. Le problème après, c'est est-ce que je suis en état de conduire ? Et si j'élargis cette thématique à l'état en général, pas simplement l'état sous produit, c'est une question qu'on ne se pose pas non plus régulièrement. Moi, je peux vous dire, pour faire beaucoup de prévention du risque routier en entreprise, j'ai parfois des conducteurs je rencontre des conducteurs qui ont été impliqués dans un accident corporel grave et qui n'étaient pas en état de conduire avant. Mais pas en état de conduire, ça peut être une très grosse fatigue. Je ne parle pas forcément d'endormissement, je ne parle pas forcément de somnolence, mais tellement fatigué que très peu réactif, et donc il a suffi qu'un coup de frein devant pour qu'il ne réagisse pas et pour qu'il tape dans un autre véhicule et qu'il blesse quelqu'un. Je croise aussi parfois des personnes qui ont eu un accident parce qu'ils venaient quelques minutes auparavant d'avoir une très mauvaise nouvelle qui les a touchés directement, et donc psychologiquement plus en état de conduire, et pourtant on les retrouve au volant.
Ouais.
Donc on a ces difficultés à lâcher le volant, à lâcher le guidon, à renoncer à faire cet acte qui est potentiellement très dangereux. Mais peut-être parce que justement, on a banalisé la conduite. C'est un acte du quotidien. Je ne suis pas sûr que tout le monde mesure la dimension de dangerosité et de risque que ça peut représenter. Moi, si je devais juste permettre de faire une sorte de zoom arrière, de prendre un recul, il faut juste se dire qu'à l'heure actuelle, la conduite, la route, que ce soit la voiture, la moto ou autre, la route, c'est le premier facteur de mortalité des moins de 25 ans. C'est le deuxième facteur de mortalité des 25-50 ans. Voilà. Et au travail, c'est la première cause de mortalité au travail. C'est la route. Et je parle pas que des chauffeurs professionnels.
Oui.
Je parle de gens qui vont juste passer 20 km sur la route le matin, l'après-midi, et le soir pour rentrer chez eux. Voilà. C'est le lieu sans doute le plus dangereux au quotidien, à moins que vous soyez militaire ou pompier. Voilà. Mais c'est le lieu le plus dangereux. Sauf que c'est tellement banalisé, ça peut donner l'impression que finalement l'accident, c'est pour les autres.
Oui.
Et c'est ce qui fait qu'on a peut-être du mal à renoncer à prendre le volant, parce que finalement, on se sent toujours assez bon, toujours assez performant pour faire le trajet. Et tout à l'heure, je vous disais que c'était vraiment culturel, parce que quand vous voyagez un petit peu, vous allez dans d'autres pays, notamment en Europe du Nord, vous allez voir des cultures où les gens sont parfaitement en capacité de renoncer à conduire, alors qu'ils ont juste consommé une ou deux bières.
Ouais.
Ce qui, chez nous, ne générera pas les mêmes effets. Voilà. Mais clairement, parce qu'il y a une conscience du risque qui est peut-être différente. Donc, si j'avais un message à faire passer, c'est parents, éduquez bien vos enfants, parce que c'est les parents qui font le premier travail d'éducation là-dessus, et qui comprennent que les produits consommés parfois à table, le petit canon de rosé avec les grillades, bah, ça reste quand même une drogue et ça reste potentiellement très dangereux quand on conduit derrière.
Eh oui. On arrive déjà en fin d'émission. Monsieur Antoine Ruiz, je vous remercie d'être venu dans cette émission.
Je vous en prie, venu avec plaisir.
Je rappelle que vous êtes de la société Route et Sécurité. Et bah, bonne route.
Merci beaucoup. Également à tous vos auditeurs. Bonne route à tous.
Au revoir à tous.
Vous venez d'écouter Sur ma route, une émission réalisée en partenariat avec la préfecture de Vaucluse dans le cadre du plan départemental d'action de sécurité routière.